Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Aujourd'hui, on a la chance de recevoir à nouveau Vivien pour parler d'un sujet qu'on a quasiment jamais traité. Nous, on est vraiment sur du software, on est sur de l'IA tout le temps, alors qu'aujourd'hui, on va parler un peu de physique et d'énergie.
De batterie.
Quoi?
Ah mince, j'ai... Oh là là,
oh le spoil d'entrée.
Non, juste avant de commencer, je t'invite à baisser ton micro parce qu'à mon avis...
Ouais. Il est un peu haut.
Et on ne voit plus. Trop bien.
Nickel.
Et sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Contrairement à la plupart des autres composants d'un ordinateur ou d'un smartphone, il y a un truc qui n'a pas vraiment bougé, qui ne s'est pas beaucoup amélioré sur les 10 dernières années, c'est la batterie. Depuis 10 ans, quasiment aucune nouveauté, peut-être à part au niveau de la vitesse de recharge, ou voilà, la charge rapide en une demi-heure. On sait finalement réduire les temps de charge, mais en termes de capacité, c'est assez hallucinant, ça n'a quasiment pas bougé. Alors pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué d'améliorer les batteries? Et surtout, pourquoi ça pourrait peut-être bientôt changer? Notamment grâce à des nouvelles méthodes pour élaborer des matériaux encore inconnus. C'est ce qu'est parvenu à faire Microsoft AI avec un laboratoire aux États-Unis. Ils ont découvert un nouveau matériau candidat à la fabrication de batteries bien plus efficace. Et vous allez voir que cette nouvelle méthode est étrangement assez similaire aux outils comme DALL-E ou Midjourney. On pourrait dire que ça n'a absolument aucun rapport pour générer des images avec de l'intelligence artificielle. Pour tout vous expliquer, on accueille aujourd'hui Vivien Londe, ingénieur recherche chez Microsoft, avec qui nous sommes en collaboration commerciale à cette occasion. Merci Vivien.
Eh ben merci Mickaël, et je vais effectivement vous parler de ce projet de recherche qui est assez fou, qui est, donc comme tu disais, une collaboration entre des chercheurs de Microsoft et des chercheurs d'un labo américain PNNL, donc Pacific Northwest National Lab, et ils se sont attaqués au problème des batteries pour essayer d'améliorer les batteries. Et alors, ce qui est assez incroyable dans ce projet, c'est que ça va balayer large. On va parler simulation numérique avec vraiment des simulations traditionnelles de physique, avec des modèles d'IA. On va parler énergie, du coup, pour voir comment stocker l'énergie dans des nouvelles batteries. Et on va même parler expérience dans des labos, parce que dans ce projet de recherche, dans cette collaboration, ils ne se contentent pas de trouver des nouveaux matériaux. À la fin, ils vont jusqu'à synthétiser, donc créer des nouveaux matériaux, en fait. Ça, c'est assez
dingue. Pour les tester, quoi.
Pour les tester. Donc, ils vont jusqu'au bout du processus et ils créent de la nouvelle matière, en fait, des choses qui n'existaient pas avant. Alors, c'est toujours les mêmes atomes, hein, on ne va pas inventer des nouveaux atomes. Mais assemblés comme ça, pour faire ce matériau, ça n'existait pas avant et c'est un candidat pour effectivement changer complètement la façon dont on fait les batteries.
Trop cool, moi je suis hype. Ouais. Et dites-vous si vous avez des segments un peu plus complexes, on va parler un peu de physique, de choses comme ça, que derrière se cache potentiellement le futur des batteries, l'iPhone qui dure une semaine. Donc il y a vraiment un intérêt en fait pour tout le monde à ce que ce genre de technologie se développe, émerge. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais justement on va voir avec toi, qu'il y a du nouveau. Et en fait, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. C'est ça qui
ouais,
est
excitant. Donc c'est doublement excitant de ce point de vue-là. Et en plus, on va voir que même la méthode pour ce nouveau, elle est intéressante. Mais ne spoilons pas trop dès maintenant. Peut-être pour comprendre vraiment le contexte, les enjeux. Qu'est-ce que c'est une batterie, en fait? Bon, on sait tous ce que c'est qu'une batterie. Mais son fonctionnement, donc on va avoir deux électrodes et puis il va y avoir un fil électrique entre les deux. Et quand la batterie est en décharge, quand elle est en fonctionnement, quand on l'utilise, c'est là qu'on va se servir de l'énergie. Donc on met soit une voiture, soit un ordinateur, un portable, peu importe. Et ce qui fait que cet appareil peut fonctionner, c'est que les électrons, ils vont d'une électrode à l'autre. Jusqu'à là, pas de problème. Sauf que le problème, quand même, c'est que si jamais il y avait juste ce fil électrique, en fait, comme c'est des électrons qui vont d'un endroit à l'autre, très vite, les électrodes, elles arrêteraient d'être neutres électriquement. Parce qu'il y en a une qui perd tous ses électrons et l'autre qui gagne tous ses électrons. Donc il faut qu'il y ait un autre déplacement. Et ça, c'est un autre chemin, en fait, entre les deux électrodes. Il va y avoir, alors dans les batteries lithium-ion par exemple, qui sont très très courantes, il va y avoir des ions lithium qui font exactement le même chemin, mais qui passent pas par le fil électrique en fait, qui passent par l'électrolyte qui est dans la batterie en fait, entre les deux électrodes. Okay. Donc ça c'est important, parce que dans les batteries lithium-ion telles qu'on les fait actuellement, cet électrolyte il va avoir tendance à être liquide. Et c'est du coup les ions lithium, ils sont en solution là-dedans, ils peuvent se déplacer. Et en fait, il y a deux problèmes à avoir cet électrolyte liquide. D'une part, il peut y avoir des fuites, et du coup, ça peut créer des problèmes de contamination et autres. Et le deuxième problème, le fait qu'il y ait un électrolyte liquide, ça fait qu'il peut y avoir des dépôts en fait sur les deux électrodes, des dépôts de lithium qui vont venir s'accumuler. On appelle ça des dendrites. Et quand il y en a trop, en fait, ça peut faire un court-circuit dans l'électrolyte où l'électricité se met à passer non plus par le fil comme ça devait le faire pour faire fonctionner l'appareil, mais dans l'électrolyte à l'appareil, et donc la batterie, elle est flinguée à ce moment-là.
Elle se détériore, etc.
Voilà.
Et juste pour bien préciser, pour ceux qui ne sont pas les plus affûtés éventuellement en physique, qu'est-ce qui fait que ce système-là permet de stocker l'énergie en gros ? C'est quoi le mécanisme qui fait qu'on a imaginé, on a pensé à ce système pour stocker de quoi de l'énergie pour faire marcher nos appareils, etc.
Oui, bah là, c'est de l'énergie chimique. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à chaque électrode, il y a une réaction chimique qui va avoir lieu. Et c'est cette réaction qui libère de l'énergie qu'on récupère sous forme d'électricité.
C'est le déplacement des électrons de l'anode à la cathode, si j'ai pas de bêtises, ou l'inverse, je sais plus. et qui génère de l'électricité.
Exactement. Et alors ces problèmes que je citais sur l'électrolyte liquide, on a des contre-mesures, hein, parce que d'ailleurs aujourd'hui, énormément de batteries sont au lithium-ion. Mais en fait, pour mettre en place ces contre-mesures, ça oblige à rajouter un peu de matière sur la batterie. Et donc ça va l'alourdir un peu. Et dans beaucoup d'applications, le poids de la batterie, c'est quelque chose qui est fixé. On ne peut pas dépasser un certain poids. Je pense à des voitures, à des téléphones portables. Et du coup, si y a de la matière qui est là juste pour les contre-mesures, en fait, on perd en densité énergétique. C'est-à-dire qu'à poids fixé, on peut stocker moins d'énergie dans cette batterie. Et donc ça, ça a des répercussions très concrètes.
Moins efficace, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'on peut aller moins loin en voiture. Donc les cas d'usage, ils sont beaucoup moins bien. Et puis la batterie de l'ordi va être morte plus tôt, quoi.
Ça, je pense que c'est pas si intuitif, le fait que le poids est si important. Parce que tu pourrais, en fait, naïvement, quand tu découvres le problème, tu pourrais te dire, pour augmenter l'autonomie de ma voiture, il suffit que je rajoute des batteries et des batteries et des batteries et des batteries. Mais en fait, ça marche pas comme ça, parce qu'il y a un moment, pour rajouter de l'autonomie, tu rajoutes du poids.
Ouais, voilà.
C'est un peu comme le carburant et les fusées, entre guillemets. Il y a ce que t'expliques, la densité énergétique, c'est hyper important parce que c'est ça qui... c'est ça qui permet de trouver le sweet spot entre le poids et l'autonomie, en gros.
Oui, c'est ça. Parce qu'au bout d'un moment, si tu as une batterie qui est beaucoup trop lourde, il faut aussi la transporter. Donc, tu perds en efficacité et voilà. Ça peut pas fonctionner seulement comme ça.
Parce qu'il est à l'infini.
Donc, une idée qui est très étudiée en R&D, c'est de mettre des électrolytes solides. Donc, toujours ce matériau qui est dans la batterie entre les deux électrodes, on le met sous forme solide. Et là, on gagne en densité énergétique, donc ça, c'est très bien. Mais ça pose d'autres problèmes. Et notamment, quand on a un électrolyte solide, il risque d'y avoir une moins bonne conductivité, en fait. C'est-à-dire que les ions lithium qui sont censés aller d'une électrode à l'autre, par l'électrolyte, s'ils passent moins vite, ça crée d'autres problèmes. Donc c'est pour ça que c'est un problème de R&D complètement ouvert.
Et aujourd'hui, on ne sait pas faire de l'électrolyte solide.
On sait faire un peu, mais ce n'est pas l'état de l'art. L'état de l'art pour les batteries lithium-ion.
Ce qu'on a dans nos téléphones, je veux dire.
Ça reste des électrolytes liquides dans la plupart des cas. Et donc, vous vous en doutez, ce qui va se passer, c'est que ce projet-là de recherche entre Microsoft et PNNL, ils vont chercher à découvrir un nouveau matériau pour justement trouver l'électrolyte solide parfait, qui est à la fois une bonne conductivité et qui permet d'avoir une batterie avec une très bonne densité énergétique. Alors,
et donc ça pourrait décupler, par exemple, la batterie de mon iPhone.
Pour le même poids.
Pour le même poids, j'aurais plus de batterie.
x2 sur
exactement.
Et pour la même taille aussi.
Ça pourrait être bien mieux de ce point de vue-là, exactement. Et alors, ce qu'on pourrait se dire naïvement, c'est que pour faire ça, pour trouver des électrolytes solides, on en connaît quelques-uns parce qu'il y a pas mal de R&D dessus. Et on pourrait se dire, on prend les matériaux qui existent déjà et on va essayer de remplacer tel atome par un autre atome qui a typiquement le même nombre de liaisons, parce que les atomes, ils ont typiquement l'atome d'oxygène, il va toujours tendance à avoir deux liaisons. Enfin voilà, on sait pour chaque atome combien de liaisons ils font, donc on peut faire des remplacements comme ça. Et puis à chaque fois, on essaye de synthétiser ce nouveau matériau où on a tenté un remplacement. Et puis après, on fait tout un tas de tests en laboratoire, expérience, on voit si ça marche. Le problème de cette méthode, c'est que c'est très très long. Donc pour synthétiser un nouveau matériau, si tout se passe bien, ça va prendre déjà une journée. Et puis après, il faut faire tous les tests. Donc ça ne scale pas, en fait.
Ça prend plusieurs mois.
Voilà. Ouais. Voilà. Alors, une idée pour aller plus vite, c'est d'envisager plus de candidats en amont, de matériaux en amont, et de faire des simulations numériques. Et alors, on pourrait se dire que les chercheurs, ils ont voulu faire ça sur peut-être 1000 matériaux ou quelque chose comme ça. Et bien, en fait, non. Ils ont mis la barre très, très haut directement. Ils ont envisagé, au départ, 32 millions de matériaux pour essayer de trouver le bon électrolyte solide qui a toutes les bonnes propriétés. 32 millions. Ils ne sont pas allés de main morte. Et en fait, avec un tel nombre de matériaux, on ne pourrait pas faire les techniques habituelles de simulation numérique, parce que même si ça va plus vite que synthétiser le matériau et après faire les expériences en laboratoire, c'est quand même assez coûteux, les expériences de physique, les simulations numériques de physique avec du calcul haute performance, ça consomme beaucoup de ressources.
Ah oui, c'est fait dans les data. Enfin, tu fais pas ça sur l'ordi du labo, quoi, je suppose.
Oui, c'est ça. T'as besoin de tout un super calculateur. Alors là, ils ont utilisé le cloud Azure, mais t'as besoin d'avoir une grosse échelle de serveurs. Alors là, pour ce projet en particulier, ce projet de recherche, ils ont utilisé 1000 VM. Donc on voit que ça commence à être des machines assez costaudes. Et en fait, la partie calcul haute performance, qu'elle permet de faire, c'est de faire les calculs de physique, justement. Donc, des calculs, on fait un petit peu des approximations. On ne traite pas tous les électrons dans leur subtilité quantique et autres. On fait un petit peu des approximations. Mais il y a quand même des résultats assez bons. Une méthode qui est beaucoup utilisée, c'est Density Functional Theory, qui permet justement de comprendre où vont aller les électrons autour du matériau. Il y en a plein d'autres. Et comme ça, ils ont réussi à s'attaquer à 800 matériaux candidats.
Des millions initiaux, il reste d'intéressant, en fait, à ce moment-là qu'une...
Alors c'est ça. Et alors, du coup, ça ouvre la question de comment on est passé de 32 millions à 800. Parce qu'en fait, avec les techniques de calcul haute performance, tu passes des 800, j'ai pas encore dit comment on les avait, à 23, en l'occurrence, candidats matériaux. Il se trouve que sur les 23, il y en avait 5 qui étaient déjà connus, donc on n'en parle pas. Donc il en reste 18. Et sur ces 18-là, en prenant des critères, de prix, à quel point le matériau est rare, les atomes sont rares, etc., on arrive à en sélectionner un seul. Donc, en fait, toute la partie calcul haute performance, elle te permet de passer de 800 à 23. Et ça, c'est en utilisant 10 heures de calcul sur de l'ordre de 1000 VM. Donc, c'est déjà en bourrinant un petit peu.
Donc tu ne peux pas faire ça sur 32 millions.
Et
si
voilà.
Ça te prend déjà 10 heures.
Et voilà, exactement. Si on fait le calcul, donc tout à l'heure, je disais, si on l'avait fait en laboratoire, il aurait fallu un jour par candidat, donc 32 millions de jours, si dans le test, 32 millions.
Voire plus. Ouais.
T'es déjà à quasiment 100 000 jours.
Tu peux rendre...
Quasiment 100 000 années, pardon. Quasiment ouais. 100 000 années.
Tu peux avoir tous les data centers de la planète.
Aucune chance.
C'est juste impossible.
Aucune chance, ouais.
C'est marrant, on dirait que c'est comme trouver l'aiguille dans la botte de foin, un peu.
Oui, c'est ouais. ça. C'est des problèmes comme ça. En fait, ils se sont mis eux-mêmes dans le problème, les chercheurs. Parce qu'ils auraient très bien pu dire, on envisage moins que 32 millions de candidats.
Mais il y aurait beaucoup moins de chances de trouver la
Mais voilà, vite. Nous, ce qu'on veut, c'est trouver la perle rare. Enfin, eux, ce qu'ils veulent, c'est trouver la perle rare. Donc, on a vu la partie calcul haute performance. Et en fait, pour la partie passer de 32 millions à 800 candidats, là, ça va être avec des modèles d'IA. Et donc, en fait, les modèles d'IA, ils permettent de franchir encore un cap en termes de vitesse d'exécution. Parce que eux, alors ça représente quand même 70 heures de calcul sur les 1000 VM, alors qu'on avait gardé que 10 heures pour le HPC, donc ça reste le gros des calculs. Mais c'est eux qui font le gros du filtre aussi, de prendre tous les candidats et d'éliminer ceux qui n'ont pas une bonne conductivité, ceux qui ne sont pas stables, etc. On va quand même beaucoup, beaucoup plus vite. avec les modèles d'IA qu'avec les calculs haute performance.
Salut, si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore, voilà, telle une fusée.
Mais du coup, est-ce que t'as une... Enfin, c'est peut-être hors de portée, mais... Comment, quelle est cette magie? Comment ça...
C'est vrai que ça a l'air magique.
Comment tu fais?
C'est comme ça. Qu'est-ce que c'est que ces modèles d'IA?
Modèles d'IA?
32 millions, paf, saupoudrés de modèles d'IA, et vous obtiendrez des matériaux.
Comme sur les sites web.
Cool.
Notre service est...
AI-powered.
AI-powered.
Ouais, exactement. Surtout que la partie calcul haute performance, c'était déjà les meilleurs logiciels pour faire ça.
Oui, et pour le coup, c'est connu.
Moléculaire. C'est connu, ça existe depuis un moment, mais ils sont sans arrêt améliorés. C'était déjà la pointe, quoi. Donc, arriver à faire mieux que ça, de plusieurs ordres de grandeur comme ça, c'est impressionnant.
Comment ils font ?
Alors, il y en a plusieurs. Il y en a un dont j'aimerais parler en particulier, un modèle d'IA pour la science des matériaux, comme ça, ou les simulations moléculaires. Il s'appelle Distributional Graphormer. Et en fait, c'est de l'IA générative pour les matériaux ou pour les molécules. Donc, l'IA générative, donc vous connaissez sans doute par les images et pour d'autres domaines, mais je pense que c'est les images les plus connues. Et bien là, on arrive à faire de l'IA générative pour les matériaux. C'est ça qui est fou, en fait. Comment ça marche ? En fait, Distributional Graphormer, il faut lui donner en entrée une description de qu'est-ce qu'on va mettre dans ce matériau. Donc, on lui dit, il va y avoir tel atome dans telle proportion, disons un peu de lithium, un peu de sodium, peut-être du chlore. Voilà, on lui donne quelques atomes, on lui donne un petit peu les proportions. Et lui, ce qu'il arrive à faire, c'est à en trouver la forme 3D. Et ça, c'est hyper important parce que c'est à partir de la forme 3D des matériaux, des molécules, qu'on comprend comment les molécules interagissent entre elles, quelles vont être les propriétés des matériaux. Donc ça peut être des propriétés thermiques, comment ils réagissent quand ils vont être chauffés, ça peut être des propriétés de conductivité, comment ils transportent justement les ions lithium, par exemple, comme on en a besoin pour les batteries. Ça peut être plein de propriétés différentes, on a besoin de connaître la forme 3D. Et c'est exactement ce que va faire ce modèle d'IA Distributional Graphormer.
Alors qu'un physicien, si je lui donne « t'as tant de d'atomes dans telle proportion », il ne sera pas capable d'imaginer à l'avance à quelle va être la forme de la molécule en 3D, c'est ça ?
Et oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est un problème qui est vraiment difficile.
On ne sait pas forcément quand on n'est pas physicien.
Non, mais exactement.
Et en fait, c'est dur.
Et on en avait un petit peu entendu parler il y a 3-4 ans, quand il y avait eu un modèle qui s'appelle AlphaFold, qui avait fait ça. Alors, ce n'était pas pour les matériaux cette fois-ci, c'était pour les protéines. Mais c'était la même idée, on lui donnait la suite d'acides aminés, la séquence d'acides aminés, donc de quoi la protéine est faite. Et AlphaFold, il arrive à trouver la forme en 3D, et c'est ça qui va permettre de dire avec quelle autre molécule la protéine va réagir. Et voilà, ça ouvre la porte à trouver des nouveaux médicaments, ce genre de choses.
Et ça, c'est un peu les mêmes systèmes appliqués aux matériaux, du coup.
Voilà, c'est ça. Alors, non seulement ça permet de traiter pas que les molécules, mais aussi les matériaux. Et en plus, là où AlphaFold, il permettait de trouver uniquement la forme la plus stable de la protéine, avec Distributional Graphormer, on peut avoir toutes les formes 3D possibles. Parce que ce qui se passe, en fait, c'est qu'un matériau ou une molécule, il n'est pas statique. Il va avoir tendance à bouger un peu autour de sa position d'équilibre.
Il fait sa vie, quoi.
Il fait sa vie, ouais. T'as toujours un peu d'agitation thermique, tout ça bouge un peu. Et donc,
j'ai trouvé ça très beau.
On voit que ça bouge, c'est vrai que c'est beau. Et donc, en fait, pour comprendre toutes ces propriétés, on a besoin de connaître non pas seulement sa forme la plus stable, mais toutes ses formes et de pouvoir donner une probabilité à chacune de ces formes. Et donc, c'est ça que Distributional Graphormer est capable de faire. Alors, comment il arrive à faire ça ? Donc je vous ai dit, c'est de l'IA générative. En fait, c'est même un modèle de diffusion. Et les modèles de diffusion, on les connaît pour les images. Et en fait, c'est vraiment le même fonctionnement pour les matériaux et pour les images. Donc, comment ça se passe pour les images ? En fait, donc là, si je parle de, par exemple, DALL-E ou Stable Diffusion, tous ces modèles pour des images 2D, en fait, un modèle de diffusion, ce qu'il va faire, c'est qu'il va apprendre à déflouter des images. Donc on part au départ d'une image parfaite, plein d'images parfaites, et puis on va leur mettre des niveaux de flou de plus en plus importants.
Pour entraîner le modèle.
Pour entraîner le modèle, absolument. Et le modèle doit apprendre à retrouver l'image de départ à partir d'une version un petit peu plus floutée. Et au début, il n'y arrive pas très bien, et puis il s'entraîne, il y arrive de mieux en mieux. Et en fait, on va le faire pour des niveaux de flou de plus en plus violents. C'est-à-dire que typiquement, il va y avoir 1000 niveaux de flou différents. Oui. Et le modèle, au début, il apprend à déflouter un millième. Et puis après, il apprend à aller de la, du flou 2 millième au flou 1 millième. Il apprend à inverser le flou, comme ça, très progressivement. Et ça, c'est absolument magique, parce qu'à la fin, on donne au modèle une image qui est entièrement constituée de flou. Et en étape par étape, en enlevant le flou comme ça, on arrive à une image qui ressemble aux images qu'on rencontre tous les jours, quoi. Donc, côté distributional graphformer, il va se passer exactement la même chose, mais avec des atomes. Donc, l'équivalent du flou en mode science des matériaux molécules, c'est de faire bouger un petit peu la position des atomes. Donc, on part d'un matériau ou d'une molécule qui existe, on connaît exactement la position 3D des différents atomes, et puis on les fait un petit peu bouger, ça c'est un petit peu de flou. Le modèle apprend à retrouver la structure initiale, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il soit entièrement entraîné. Et là, on peut lui donner tous les atomes à des positions aléatoires, exactement, tous centrés sur le même point.
On le met sur la table, quoi.
Voilà, c'est ça. Et puis, chaque atome a une probabilité indépendante des autres d'être ici. Ils sont tous indépendants les uns des autres au départ. Exactement comme côté image, quand les pixels, on les prenait tous de façon aléatoire. On utilise le modèle de diffusion dans le sens inverse. Ça enlève le flou et ça recrée des molécules comme ça. Et donc, bien sûr, si on donne une nouvelle composition d'atomes, on arrive à avoir un nouveau matériau.
C'est dingue. En fait, quand tu dis c'est logique, mais c'est quand même fou. En fait, c'est comme les modèles de diffusion d'images ont réussi, itération après itération, à se construire une sorte de modèle du monde en 2D avec quelle forme de...
Quelle forme existe dans notre monde?
Exactement, comment tu génères un œil, un visage, tout ça.
En fait, il s'est fait un annuaire des images existantes dans notre vie.
C'est ça, mais qu'il a réussi à généraliser. En fait, il se passe la même chose sur les atomes. C'est comme si ton modèle arrivait à avoir une compréhension profonde de comment des atomes se structurent en 3D dans l'espace, quoi.
Ouais.
C'est dingue. Ouais. c'est dingue.
Et moi, ce que je trouve fou, c'est que ce soit à peu près le même genre de technique qui marche pour différents domaines qui ont a priori un petit peu rien à voir, comme ça.
Et alors, à partir de ça, ça veut dire que... ils sont capables du coup de dire très rapidement si la structure 3D de ces atomes là et donc s'ils vont être conducteurs, etc.
Et voilà, c'est ça, on passe par l'étape structure 3D, toutes les structures 3D avec leur poids, et ça nous donne les propriétés, et donc c'est comme ça qu'on peut mettre en place le filtre qui nous faisait passer de 32 millions de candidats. En fait, on élimine tous les matériaux qui ne sont pas stables, il n'en reste que 500 000, et puis après ça descend comme ça et on n'en garde que 800 qui sont les plus prometteurs. Alors, il y a quand même besoin de faire l'étape calcul haute performance sur ces 800-là, parce que les modèles d'IA, on le sait, parfois, il peut y avoir des erreurs. Donc, on est sur le compromis temps-précision. On a tout misé sur le temps, en fait, avec les modèles d'IA.
Ah oui.
On veut que ce soit le plus rapide possible, mais sur la sous-sélection la plus prometteuse, on refait tourner les calculs plus précis, donc là, calcul haute performance.
Ok, est-ce que tu peux juste réexpliquer cette deuxième étape de passer de 800, parce que je sais qu'on est passé un peu vite parce que c'est peut-être des trucs qui existent depuis plus longtemps, mais est-ce que on peut se retarder dessus sur comment ils sont passés de cette présélection à 800 à l'unique échantillon qui sera après modélisé par le labo, qui a vraiment été fait, hein, d'ailleurs vous allez voir.
Oui. Et ben là, en fait, les calculs qui vont être faits, ça va être dans un premier temps des calculs de structure électronique. Donc vraiment, une fois que les atomes, on a décidé de où ils étaient, il faut comprendre comment le nuage électronique va se mettre autour. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on modélise l'électron en donnant uniquement sa probabilité d'être à tel ou tel endroit. Donc c'est un petit peu moins précis que si on donnait vraiment sa fonction d'onde quantique, mais c'est déjà vraiment pas mal.
Évidemment,
oui.
c'est déjà vraiment pas mal.
Okay.
Et puis après, il y a d'autres calculs qui vont être plus de dynamique moléculaire, où là, on s'intéresse justement aux petits mouvements autour d'une position d'équilibre. Et donc ça permet, à partir d'une seule, forme 3D, de trouver les autres, parce qu'on regarde les variations par rapport à une position d'équilibre.
Et donc c'est tout ça que tu appelles des simulations de la physique.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est la méthode traditionnelle pour faire des simulations numériques de physique. On résout en fait les équations de la physique parce qu'on sait les charges de signes opposés vont s'attirer.
Donc à partir d'un état initial et des fonctions de la physique et des équations de la physique, on sait prédire les états suivants.
Voilà.
Mais du coup, ça prend beaucoup de puissance de calcul, j'imagine.
Voilà, c'est ça. Et on est quand même obligé de faire certaines approximations parce que sinon ça prendrait encore plus de puissance de calcul.
Et là du coup, il y a combien d'ordi qui ont bossé sur cette étape de passer de 800 à 1?
Alors là, il y avait 1000 VM, 1000 machines virtuelles, et ça a pris 10 heures. Alors que Pour la partie 32 millions à 800 avec les modèles d'IA, c'était aussi 1000 VM, mais ça a pris 70 heures. Donc c'est quand même beaucoup plus rapide pour les modèles d'IA parce qu'ils ont traité 32 millions de candidats.
Mais c'est hyper intéressant de voir l'usage malin de l'IA pour dégrossir le taf.
Ouais.
Tout en sachant qu'elle peut faire des bêtises et du coup, la fin, il faut la faire à la main.
Ouais.
C'est fascinant.
Ouais. Ouais, non, mais complètement. Et du coup, si on revient sur ces modèles de diffusion, en fait, ce qu'on arrive à faire, c'est en mettant les atomes tous au même endroit ou en mettant des pixels aléatoires au début, à retrouver dans un cas un matériau viable et dans l'autre cas, une image qui ressemble à quelque chose. Et donc on a expliqué que c'était avec le modèle de diffusion. En fait, il y a une petite subtilité à cet endroit-là qui va expliquer pourquoi DALL-E ou Stable Diffusion, on peut leur donner un prompt en entrée. On peut leur donner du texte et ils vont créer une image qui correspond à ce texte.
Ah oui, parce que jusqu'ici, tu as expliqué juste que tu pouvais déflouter, mais là, le texte n'est pas encore dans l'équation. Quoi.
Et là, en fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est que parmi toutes les images qui existent, si on mettait des valeurs aléatoires à chaque pixel, on n'aurait typiquement pas du tout une image qui ressemble à quelque chose. Une image qu'on aurait pu dessiner ou prendre en photo, ça arrive très rarement en fait. Donc, si on pense dans l'espace des pixels, le sous-ensemble des images qui ressemblent à quelque chose, vous voyez ce que je veux dire, il est tout petit en fait. Et ça fait que le modèle de diffusion, il n'est pas très efficace si on le fait tourner directement sur l'espace des pixels. Donc, une méthode qui fonctionne bien, c'est de compresser l'information en calculant une représentation de l'image, mais qui n'est pas du tout sous la forme que nous, on aime bien, sous la forme de pixels. Ça va être, par exemple, ça peut être juste 1500 nombres qui représentent le sens de cette image. Qu'est-ce qu'on va y voir dessus? Et donc, si on a cette représentation compressée pour les images et qu'on a aussi une représentation compressée comme ça pour le texte, en fait, il y a la possibilité d'essayer d'aligner les deux, et c'est ça qui va nous permettre de générer une image qui correspond à un certain prompt. Et alors, comment les chercheurs alignent les deux? En fait, là aussi, c'est une question de données. Ils partent de beaucoup d'images dont on connaît la légende, et puis ils font en sorte que la légende et l'image qui sont associées correspondent à des représentations compressées qui sont égales. Et une fois qu'on a fait ça, ça permet de boucler la boucle et donc de mettre en entrée un prompt, de dire j'aimerais bien avoir telle sorte d'image. On calcule la représentation compressée et ensuite on fait tourner le modèle de diffusion sur cette représentation compressée. Ensuite, on revient dans l'espace des pixels et voilà, ça nous donne l'image générée ainsi. Côté molécule atome, c'est la même chose. Donc si on repense à Distributional Graphformer, il va y avoir aussi la possibilité de conditionner sur les propriétés qu'on a envie d'avoir à la base.
Donc c'est-à-dire que tu peux, tout comme avec un modèle de diffusion d'image, tu peux demander telle ou telle typologie d'image, un paysage ou un style de graphique, etc. Là, tu peux mettre dans un prompt des propriétés de ta future molécule, c'est ça?
Voilà.
En gros.
Alors oui, on ne peut pas demander tout et n'importe quoi non plus,
okay.
Mais il y a moyen de raffiner un petit peu et de lui demander mieux qu'un matériau aléatoire, c'est ça que je veux dire. Et donc en fait, ça nous explique comment on arrive à passer de 32 millions à 800. Et avec cette méthode-là, donc Distributional Graphformer, on arrive à faire ce gros calcul. Et le candidat, donc je vais vous donner sa structure, hein, de quel atome il est fait, le candidat qui a été retenu, qui a passé tous les filtres et qui est peut-être le futur des batteries avec un électrolyte solide, il va être constitué en l'occurrence de sodium, de lithium, d'yttrium et de chlore. Donc voilà, dans des proportions, peu importe lesquelles. Mais c'est celui-là, le candidat le plus prometteur qui a été retenu. La perle rare.
qui aurait été introuvable, probablement, à part un hasard phénoménal.
Ouais.
Si vous n'aviez pas brute forcé le truc, en gros.
Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, la question qui se pose maintenant pour ces chercheurs de Microsoft et de PNNL, c'est de faire maintenant tous les tests pour voir si ce matériau, il passe l'industrialisation. Ils ont commencé à faire quelques tests.
De le passer dans la vraie vie, en fait, le sortir des ordinateurs. Et...
On n'est pas encore à l'industrialisation, le passage à l'échelle, tout ça. Et donc, peut-être que ça va être celui-là qui sera dans toutes les batteries du futur. Peut-être pas, on n'est pas sûr encore. Moi, je trouve que ce n'est pas ça le plus important. Finalement, dans cette histoire, ce que j'ai envie de retenir encore plus que peut-être qu'on a trouvé le matériau pour les batteries, c'est la méthodologie que je trouve absolument folle.
Et qui est nouvelle, en fait. Enfin, c'est nouveau, pas forcément pour cette fois-ci, mais depuis quelques années, quoi.
Oui, c'est ça, parce qu'on voit que là, il y a ce boom de l'IA, les modèles de diffusion, ça fait pas si longtemps que ça qu'on en parle, donc on voit qu'il y a des nouvelles techniques qui permettent de passer à l'échelle. Si on avait fait uniquement du calcul haute performance, même en utilisant les 1000 VM qui ont été utilisés par les chercheurs pour ce projet, en fait, ils n'auraient pas pu traiter 32 millions de candidats matériaux. Et donc, on voit tout de suite qu'en changeant d'échelle comme ça, on augmente drastiquement nos chances pour les batteries, mais aussi pour plein d'autres domaines en sciences des matériaux, en recherche de nouveaux médicaments. Enfin voilà, les applications sont assez variées, de chercher de façon plus efficace. On ne sait pas exactement ce qu'on va trouver, mais on sait qu'on peut chercher de façon beaucoup plus efficace avec ces outils-là.
On a débloqué un bon outil. Et comme d'hab, bon, c'est dur de prédire dès maintenant tout ce qui va être possible. Déjà, honnêtement, je ne suis pas sûr que les gens qui ont théorisé les modèles de diffusion s'attendaient à ce qu'ils soient utilisés en sciences des matériaux. C'est pas sûr, entre guillemets.
Ouais, faudrait leur demander.
Et bien, est-ce que ça, du coup, il a été synthétisé
Et voilà, ils ont été jusqu'à le synthétiser. Et maintenant, ils font les tests pour voir si ça passe à l'échelle, si ça ne coûte pas trop cher. Mais donc, on peut le voir, on a des images de ce matériau, cet électrolyte solide synthétisé. Il a ensuite eu des traitements thermiques, des traitements mécaniques où il est compressé par une presse.
Okay.
Donc, c'est très, très concret, cette histoire.
C'est l'image avec des tubes à essai, Thiel, si jamais.
Et du coup, on ne sait pas encore à quel niveau d'efficacité énergétique on peut obtenir avec ça. J'imagine qu'il y a pas mal d'étapes avant de passer à une vraie batterie qui pourrait subir des tests industriel, quoi.
Oui, exact. Alors, j'ai pas le chiffre en tête de la densité énergétique qu'on pourrait faire. Je sais que globalement, c'est très souvent le cas que les électrolytes solides, ils aient une meilleure densité énergétique que les électrolytes liquides. Donc ça, c'est un point fort, a priori. Ouais.
On sait pas encore prédire en termes d'heures de batterie ce qu'on pourrait avoir. Très, très stylé. Franchement, j'espère que, en tout cas, le chat, ça vous a pas trop perdu, que vous avez trouvé ça intéressant. Mais effectivement, comme tu dis, évidemment, il y a, au fond de nous, on a tous envie d'augmenter tel ou tel graphe sur notre config, sur la prochaine presse Apple ou sur notre prochain laptop. Mais c'est vrai que, dans le fond, le plus fascinant de l'histoire, c'est l'ingéniosité des équipes de Microsoft AI et de l'autre labo. Pour arriver à ce résultat-là, c'est assez fascinant.
Ouais.
Et alors là, je dévie un peu du sujet, j'avoue, mais... toi, la dernière fois que tu étais venu, c'était pour nous parler de quantique.
Mm-hmm.
Aujourd'hui, sur quoi tu travailles, toi ? Je sors complètement.
Alors, moi, j'ai pas travaillé sur ce projet-là en particulier, mais j'ai pu appeler certains des chercheurs qui avaient, eux, travaillé dessus, qui ont pu m'expliquer comme ça en détail. Cool. Et donc, moi, je continue
Les Français ?
Non, pas à ma connaissance. Non. Et moi, je continue de travailler beaucoup sur le quantique. Sur essayer de trouver des codes correcteurs quantiques pour que la mémoire quantique soit plus fiable. Ça, c'est mon sujet de prédilection, qui était déjà le mien avant. Et je regarde un peu, pas en mode recherche, mais plus en mode veille technologique suivie, toutes les nouveautés de l'IA qu'on voit en ce moment et qui sont absolument fascinantes.
Mais je me trompe, mais est-ce que, même malgré que tu n'es pas bossé dessus, en fait, il y a des... Mine de rien, il y a quand même une intersection non négligeable. Bah, tu nous parlais des simulations, de faire des simulations numériques de la physique, etc. En fait, c'est le genre d'outil... est-ce que c'est le genre d'outil que toi, tu as l'habitude d'utiliser, par exemple
Alors, je pense que les gens qui vont utiliser ces outils, c'est quand même des chimistes computationnels, des gens qui font de la science des matériaux computationnels qu'on va trouver dans des labos de R&D de beaucoup d'entreprises. Donc moi, ces outils, précisément, je les utilise plus pour les tester que pour vraiment... C'est pas moi qui vais découvrir de nouveaux matériaux, c'est ça que je veux dire.
Non, mais c'est vrai que maintenant, tu bosses aussi un peu... sur l'IA, alors même si tu fais pas de la recherche, parce que tu te dévalorises, c'est pour ça que je me permets de... Mais tu travailles beaucoup sur ce que sort Microsoft et sur tous les outils d'IA. Disais que tu présentais ce projet à des gens que... J'arrive plus à parler, mais que globalement, tu avais bien connaissance de ce projet et que tu l'utilisais dans ton travail
Oui,
pour présenter ce qui est possible de faire, en fait, avec les outils de Microsoft et autres.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, effectivement, là, j'ai beaucoup parlé du projet de recherche, mais il y a un service cloud qui est associé, qui s'appelle Azure Quantum Elements. Et ce service, il permet de, justement de faire ce genre de calcul, et il va mêler calcul haute performance, modèle d'IA, et il est accessible dès aujourd'hui sur Azure, sur le cloud. Il est en pré-version privée actuellement. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'il faut contacter des équipes Microsoft Azure Quantum Elements ou me contacter moi et je transmets pour pouvoir utiliser ce service.
À l'accès privé. Ok, très intéressant. Mais en tout cas, en vrai, je trouve c'est un peu stylé que les data centers, que tu saches que un des trucs qui tourne sur des data centers, c'est des modélisations à grande échelle pour trouver des nouveaux.
Ouais, pour la recherche.
Comment on fait pas ça, enfin, c'est quand même un truc que tu retrouves pas dans n'importe quelle boîte. Donc franchement, très stylé. J'espère en tout cas que ça vous a intéressé. Et nous, ça faisait longtemps qu'on. Enfin, moi, ça faisait longtemps que je m'intéressais à ça de loin, mais sans comprendre vraiment tout ce qui se jouait derrière. Sans même savoir qu'il y avait des rapports avec ce dont on parle tous les jours ici.
Oui, également. J'ai découvert en discutant avec Vivien qu'il y avait des choses très intéressantes à raconter sur ce sujet.
Très, très stylé. Et puis, sans plus attendre, nous allons clore cette émission qui était.
Alors, je me permets, parce que j'aurais dû te le dire dans l'oreillette, mais il n'y a pas d'oreillette. Mika est revenu et nous possédons un compte Apple US. Voilà. Voilà les informations. Tu en fais ce que tu veux.
J'ai pas la ref.
Il se peut que, si je veux vous raconter cette anecdote, je pensais même pas la raconter en émission, mais je vais la raconter.
Ah si, c'est bon, j'ai la ref.
Il se peut que il y a deux émissions, on ait reçu... Tina, qui est une développeuse développeuse spatiale, on a dit ça,
et
qui nous a fait essayer l'Apple Vision Pro. Après l'émission, exactement. Et alors que, j'avoue, avant, c'était pas ma grande passion, j'avais pas d'envie particulière qu'on en ait un ici. Il faut dire que il y a un effet avant-après au niveau de la démonstration. Entre les images que tu vois dans les pubs et la réalité. Là, ce moment où j'essaye là. En fait, tu te prends quand même une sacrée claque. Et ce que j'ai dit à l'équipe, c'est qu'il n'y a aucune raison valable qu'on achète ce truc. objectivement, la seule possibilité, ce serait qu'on revende du matériel qui traîne dans les placards. Parce qu'ici,
on a beaucoup.
La boîte a quand même 6 ans maintenant. Et donc, ça cumule du matos qu'on n'utilise plus, des écrans, des lights, des trucs comme ça. Donc, je leur ai dit. Je veux bien acheter un Apple Vision Pro si vous arrivez à atteindre la cagnotte de 3 500 $. Et oui, ça peut vous paraître étonnant, mais en vrai, dans une boîte de moyenne taille pendant des années, tu trouves 3 500 $ de matos. Et ils ont réussi à vendre tout ça. Ça leur a pris un mois, je crois, si je dis pas de bêtises.
Bon, Mika a réussi.
C'est
vraiment Mika qui a fait le
taf. Il s'est pris une déterre. Et du coup, on a acheté l'Apple Vision Pro. Et voilà.
Waouh! Mais on l'a pas encore.
On l'a pas encore déballé parce
qu'on l'a pas déballé. En fait, il est là, mais on l'a pas déballé.
C'est ça.
Ok, suspect.
Et donc, ça se trouve, on va avoir aucune idée d'en faire quoi que ce soit. Mais peut-être que, typiquement, s'il y a des applis vraiment sympas ou si nous on a des idées de concept à faire, peut-être que vous aurez des chroniques à base d'Apple Vision Pro. Ou peut-être pas. Clairement, je ne m'engage à rien. Mais ça pourrait arriver en tout cas.
C'est vrai qu'il faut que je dise à Tina qu'il y a eu une influence parce que je lui ai dit qu'on en avait acheté un du coup.
On n'a pas mis de code d'affilié. Tu sais.
Ah ouais, on arrête. Ils n'ont pas ça, Apple. Ils n'ont pas ça.
Bref, sur ce, je vous propose de clore cette soirée. Dans 2 semaines, on se revoit mercredi à 19h. N'hésitez pas à follow cette chaîne Twitch et à vous abonner. C'est pour ceux qui sont arrivés en cours de route et qui ont raté la chronique de Mathieu sur la cartouche oubliée de McDo ou ma chronique sur la génération 3D. N'hésitez pas. Allez voir sur la chaîne YouTube, ce sera publié bientôt, et à vous abonner.
Peut-être on peut faire un mini rappel sur le mail.
Oui, effectivement.
On a au début de l'émission.
Instauré un nouveau truc, c'est que avec le mail _micor.studio, vous avez la possibilité de nous envoyer des idées. Si vous avez des intervenants que vous aimeriez qu'on reçoit ou des papiers de recherche, ou c'est peut-être un peu pointu, mais
globalement des intervenants ou alors vous-même qui avez fait des choses.
Exactement.
Qui correspondent
à l'émission. Si vous avez fait des trucs très stylés. N'hésitez pas à nous envoyer un mail. Et si vous voulez savoir c'est quoi un truc stylé, vous regardez sur la chaîne YouTube et vous aurez une petite idée. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée.
Très bonne soirée.
Bonne soirée.
Et à dans 2 semaines.
Salut.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real, frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.